Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur en liberté.
J'arrive devant les juges, ils me disent « Monsieur, vous avez publié des livres érotiques, on va vous condamner. » Je dis « Qu'est-ce que c'est érotique ?» Maurice Garçon, mon excellent avocat, leur demande de définir l'érotique. Et c'est là où ils se lancent dans toute une définition juridique qui est celle de l'index, qui est « Vous allez troubler les passions, vous allez exciter les sens, etc. »
Exciter les sens, ou bien plutôt, par la littérature érotique, inviter le lecteur à aller jusqu'au fond de soi et à en revenir maître de soi, ou pas. Pauvert était né en 1926, à son époque édité de la littérature érotique, c'était, comme on dit dans les ports, prêté à la grosse aventure. Des œuvres complètes de Sade, Histoire d'eau, combien de procès ? Heureusement, il n'existe pas de définition juridique de l'érotisme, non plus que de l'humour. Pauvert avait d'ailleurs tendance à prendre la justice pour une mascarade, mais il perdit beaucoup dans toutes ses affaires, y compris, un moment, ses droits civiques. La littérature érotique ne fut qu'un chapitre dans son catalogue de quelques 3000 titres. On lui doit la réédition de quantité de textes oubliés et dans son asile pour esprit singulier, il abrita aussi bien Albertine Sarrazin que l'épervier de Maheu. C'était un oiseau de proie qui fondait sur les projets qui passaient près de lui et pour reprendre le vocabulaire maritime, cher à Emmanuel Pierrat, un flibustier, un pirate, oui, mais un pirate qui offrait beaucoup plus qu'il ne pillait.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Et Emmanuel Pierrat, maître, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous êtes comme dans la salle des pas perdus, là, du palais de justice.
Il y a un peu plus de monde, je crois.
Oui, mais
il y a plus de livres, ce qui est quand même beaucoup plus agréable.
Tout le monde n'ose pas s'asseoir et beaucoup restent debout. Mais vous allez les aimanter, j'imagine, Emmanuel Pierrat. Il paraît que vous êtes la réincarnation du premier grand avocat de Jean-Jacques. Enfin, je veux dire Jean-Jacques Pauvert, on a entendu son nom tout à l'heure, Maurice Garçon.
Non, la seule chose qui est vraie, c'est que Maurice Garçon est mort en 1968, c'est l'année de ma naissance, et j'ai tendance à croire, ou la vanité de croire, parce que j'ai été l'avocat Jean-Jacques Pauvert pendant les 20 dernières années de la vie de cet éditeur formidable, j'ai tendance à croire que je suis un peu le nouveau Maurice Garçon, mais il me restera un peu de temps avant de pouvoir rentrer à l'académie et gagner autant de procès.
Alors vous êtes un grand spécialiste du droit de l'édition, de la communication, un blog, livrehebdo.fr, toutes les semaines, votre chronique juridique, vous avez été l'avocat de Jean-Jacques, de sa compagne Régine Deforge, de sa veuve. Heureusement qu'il y a plusieurs ayants droit ne font pas appel à vos services parce qu'ils seraient complètement cernés. Vous consacrez à Pauvert, sous le titre l'éditeur en liberté, chez Kahneman Lévy, un essai biographique, vif, cursif. Bon, un jour viendra où une grosse biographie peut-être paraîtra. Trouvera-t-elle d'ailleurs dans le contexte actuel un éditeur, on l'espère?
J'en suis pas sûr, je l'espère. Moi j'ai voulu, à la mort de Jean-Jacques Pauvert, c'était en septembre 2014, donc il y a un an et demi, j'étais au fin fond du Kirghizistan, en Asie centrale, pour libérer 3 écrivains emprisonnés. Et j'apprends la mort de Jean-Jacques. Mon ami, l'éditeur le plus incroyable qui soit, celui qui a lutté contre la censure, qui a eu des dizaines et des dizaines de procès, qui a tout osé. Et je me suis senti en devoir de lui rendre hommage. Et ce soir-là, j'ai écrit, au fin fond de l'Asie centrale, au pied de l'Himalaya, un long texte d'hommage à Jean-Jacques Pauvert et à ce qu'il m'avait dit, ce que j'avais défendu pour lui. Et j'ai été appelé le lendemain matin par une éditrice qui m'a dit « Emmanuel, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Et donc j'ai écrit rapidement, c'est vrai, une sorte d'hommage, un essai biographique dans lequel je me suis attelé à des grandes époques de sa vie, Histoire d'eau, le Marquis de Sade,
et les
surréalistes.
Débuts.
Les débuts, évidemment, les débuts, 1942, Gallimard, rentré dans l'édition à 16 ans.
1942, voilà. Gallimard. Quand il fait valoir ses droits à la retraite, il fait appel à Maître Pierrat. Et il lui dit, mais Gallimard répond pas, ne me donne pas trace de ma présence dans cette maison à la librairie du boulevard Raspail. Et il voulait pas reconnaître Gallimard, ils ont dû le faire devant vous, qu'ils avaient employé un gamin de 15 ans.
Ce qui était déjà illégal à l'époque. Jean-Jacques Pauvert, il naît en 1926 et c'est un mauvais élève, on va dire. C'est un immense lecteur, il boulotte énormément de livres, il naît aussi dans un environnement, dans une famille où il y a beaucoup de livres. Son père est journaliste, son grand-père a été aussi dans la presse, il y a une bibliothèque formidable. et il a décidé que par conséquent il serait un cancre absolu, mais un lecteur impitoyable, et il va tout boulotter. Alors, ça n'amène pas évidemment à une grande mansuétude de la part de l'Éducation nationale, et il est assez vite conduit vers une voie, on va dire, alternative, et il est embauché comme metteur à part. C'est le premier travail qu'on fait dans l'édition, metteur à part dans une librairie, c'est vraiment déballer les cartons et mettre les livres de côté. Il est metteur à part dans la librairie Gallimard, boulevard Raspail, celle qui existe toujours. En 1942, il est embauché à l'âge de 15 ans.
En 1942, un mystérieux Boris l'embauche aussi comme coursier, ça veut peut-être dire agent de liaison de la résistance, ce qui l'amène l'été 42 à vouloir passer en vélo la ligne de démarcation, soi-disant pour rejoindre la maison familiale de Dordogne, mais les Allemands ne l'entendent pas de cette oreille.
J'ai été jugé par l'armée allemande pour avoir passé des tracts à la ligne de démarcation. Ça faisait partie de ces tracts absolument imbéciles que nous balançaient les Anglais, qui nous prenaient pour des demeurés, hein, complètement. Pour eux, on était le tiers-monde. Ils nous prenaient vraiment pour des imbéciles et ils nous balançaient des tracts qui étaient d'un niveau de débilité effrayant. Mais j'avais gardé celui-là parce qu'il racontait qu'il fallait qu'on assassine Monterland, Cocteau, des gens comme ça, parce qu'ils étaient à Paris publiés. Ils ont oublié Sartre. Mais parce que Sartre, à l'époque, n'était pas quelqu'un de très très connu. Donc j'avais gardé un tract, j'avais eu le temps de balancer les autres dans une mare. Et alors j'ai été jugé par les Allemands d'une façon très... C'était beaucoup plus beau, hein, beaucoup plus solennel que la correctionnelle française. C'était la grande salle du palais de justice de Tours, des officiers en grand uniforme. Moi j'avais 16 ans, ça m'a beaucoup impressionné, je veux dire, j'en menais pas large. Hein. Et alors finalement, ils m'ont relâché, j'avais fait 3 mois de prison. Ils m'ont relâché sur le thème « Vous êtes jeune ». Moi, j'avais toujours nié hein, l'histoire des tracts. Même si vous avez fait quelque chose contre nous, vous vous souviendrez de la clémence de l'armée allemande. J'ai trouvé ça très bien, je me suis retrouvé dehors. Voilà.
Nous emprunterons dans cette émission beaucoup à une production de Christine Goémé, France Culture, 1990, avec Jean-Jacques Pauvert, qui parle de manière ironique de cet événement quand même un peu capital, son premier procès, distribuant les bons et les mauvais points de manière un peu étonnante d'ailleurs.
Oui.
Les mauvais points aux Anglais, les bons aux Allemands.
Exactement. Mais il a toujours joué avec cette espèce de provocation qui l'a mené à faire un catalogue si incroyable. Il est très éclectique et politiquement, parfois, il est douteux. Parfois, il est tout à fait, on va dire, dans le bon chemin. Mais il aimait bien titiller comme ça.
Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'est le bon chemin.
Non, ça fait partie de sa provocation. Et puis, il y a une grande part de légende aussi. Quand il se raconte, il a réinventé beaucoup son histoire. Il a écrit une première partie de son autobiographie qu'il a, on va dire, qu'on peut considérer comme un tout petit peu hagiographique.
La traversée du livre.
Voilà. Et... Bon, la réalité, c'est qu'en 1942, quand il est embauché à 15 ans chez Gallimard, il y a deux choses, il y a une seule chose qui l'anime, c'est la littérature. Et puis un peu l'idée quand même de gagner de l'argent avec les livres. Et il va faire deux choses, il va conserver ce fameux tract, effectivement, parce qu'il y a des noms d'écrivains dessus. Donc, il trouve que là, ça justifie tout. Il y a le nom de Monterland, il le dit, il y a le nom de Cocteau, c'est ça qui le fait porter les tracts, dit-il. Et puis surtout, à côté, quand même, il trafique beaucoup des livres clandestins, que ce soit des livres érotiques ou les livres, on va dire, sulfureux politiques, qui sont contre l'occupant allemand nazi, etc. Et ça lui permettra de gagner de l'argent.
Son installation, enfin le mot ne convient pas. Vous la datez bien sûr de 45, il y a un semblant de maison en 47, une librairie en 1950. Vous publiez, Emmanuel Perra, le beau texte manifeste de ses tout débuts. L'époque est venue, 1945-46, non plus de contredire la sottise, il faut contredire l'intelligence. Nous n'avons pas le respect des cadavres, nous voulons vivre, on dirait Dada après la Deuxième Guerre.
Oh, il va beaucoup plus loin. Il dit même « Nous sommes contre les grandes machines, nous irons jusqu'au bout, rien ne nous arrêtera. » Et c'est un manifeste pour le Palumugre, la maison d'édition effectivement qu'il lance. Il faut quand même se remettre dans les dates de Jean-Jacques Pauvert. Il rentre donc dans la librairie Gallimard à 15 ans, il devient éditeur à 19 ans. Alors certes, une modeste maison d'édition, mais il a quand même l'audace d'écrire à Sartre pour lui demander l'autorisation de publier un texte que Sartre vient de publier sur Camus, dans un périodique. Et Pauvert, à cette époque, admire tellement Albert Camus qu'il pense qu'il faut que ce texte reste de façon permanente et ne soit pas oublié par la machine de la presse qui avale comme ça les articles et les jette à la corbeille. Il écrit donc à Sartre à 19 ans et Sartre lui dit « Oui, j'accepte que vous m'éditiez ». C'est déjà formidable. Alors là, il se sent pousser des ailes et de fait, il écrit ce texte manifeste, programmatique pour sa maison d'édition, le Palumugre, et il passera très vite à l'action parce qu'il se mettra à publier le Marquis de Sade peu de temps après.
Alors, le Marquis de Sade. Il avait découvert en même temps que Camus la littérature érotique pendant l'occupation. Le Marquis de Sade, c'est quand même la source d'un filon permanent dans la littérature française. Pauvert dit, chez les Chinois, par exemple, il y a des phases de littérature érotique. Chez les Français, c'est un courant continu. La source, c'est Sade.
Oui, c'est Sade. Et Sade, c'est l'absolue liberté, c'est-à-dire tout ce qu'a toujours prôné Jean-Jacques Pauvert. C'est la possibilité de pousser les curseurs jusqu'au maximum, que ce soit dans le raisonnement sur la liberté, la possibilité de tuer les autres, la possibilité s'affranchir de toute contrainte, de toute limite, et y compris dans la sexualité. L'idée de Sade, c'est quand même, il faut le rappeler, que la nature, contrairement à ce que pense Rousseau, est violente. Elle tue par les orages, les inondations, la foudre, etc. Et par conséquent, si on est logique, qui est selon les rousseauistes, l'homme imitant la nature, il a le droit de se servir.
Donc Jean-Jacques, le vôtre, c'est l'anti-Jean-Jacques. En même temps, il se pose des questions extrêmement sérieuses. Il se demande s'il faut publier cette source, le récit de ses interrogations, plus tard en 1990.
Quand on a commencé à m'accuser de toutes sortes de méfaits, comme ça, moi j'avais affaire à des gens qui me disaient que j'étais en train, par exemple, de détruire la société française. On me disait, vos livres peuvent être lus par des débiles mentaux. Et alors un débile mental qui a lu les 120 journées de Sodome, il va couper sa petite sœur en morceaux. Bon. Moi, je prenais ça très au sérieux. Alors j'ai mis plusieurs années à me renseigner. J'ai été voir des psychiatres, des spécialistes de l'enfance délinquant, des éducateurs, des gens comme ça, qui m'ont dit qu'eux ne le croyaient pas. C'est vrai qu'un débile mental qui lit, dans la mesure où il est capable de lire vraiment les 120 journées de Sodome, ça peut lui préciser certaines idées. Ça précise, c'est-à-dire qu'il les avait déjà. Mais c'est un cas probablement sur un milliard, parce que ce qui est beaucoup plus frappant, c'est la différence que font justement les gens qui ont des tendances sadiques, des tendances meurtrières, entre la fiction et la réalité. C'est vrai que les lectures sont dangereuses, mais à ce moment-là, il faut interdire la lecture des journaux. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que c'est tout à fait vrai ce qu'on dit de l'influence des lectures. C'est vrai, ça peut révéler des choses, ça peut donner des idées. La plupart des beaux cambriolages sont faits par des gens qui ont lu les journaux. Ça a donc des conséquences. Mais c'est la réalité. C'est quand on décrit une réalité.
Alors voilà le débat situé à son exact niveau, comme vous le faites, Emmanuel Pierrat, en restituant le procès qui est fait à Jean-Jacques Pauvert en 1956. C'est une journée extrêmement intéressante, chaude, même si la presse à l'époque ne s'y est pas beaucoup intéressée, où s'opposent deux conceptions de la littérature.
Oui, il y a... D'abord, il faut redire que Jean-Jacques Pauvert est le premier éditeur en France à publier Le Marquis de Sade à ciel ouvert. En 1953, sa décision, c'est de publier tout Sade et de le faire en mettant son nom et son adresse. Et ça, c'est quelque chose de stupéfiant, parce que Le Marquis de Sade a été réédité maintes fois depuis, on va dire, la fin du XVIIIe siècle, mais toujours avec des mentions du type à Paphos sur les presses de l'amour, à Papette chez les bibliophiles créoles, pour déjouer la censure, évidemment, la police, on ne publie de façon que clandestine.
Et là, c'est un saut chez Jean-Jacques Pauvert.
Un saut chez Jean-Jacques Pauvert.
Enfin, c'est l'adresse de ses parents.
Et c'est le pavillon de ses parents, et c'est dans le garage que ses parents ont acheté, mais non pas des sous pour se payer la voiture pour mettre dans le garage, qu'il démarre sa maison d'édition. Et aucun policier ne croit réellement à la Brigade des Mœurs qu'il est possible que réellement un éditeur s'appelant Pauvert habite à Sceaux et puisse éditer ça.
Alors ça, ce sont des ruses de pirates. Mais quand on en vient au procès, qu'est-ce qu'il dit, garçon ? Qu'est-ce que dit le procureur ?
Pauvert, toujours dans la même logique qui ose tout, il a osé écrire à Sartre pour obtenir un imprimatur et publier. Il écrit à Maurice Garçon, le plus grand avocat du XXe siècle, l'immense avocat de Violette Nozière, de René Hardy, l'avocat le plus cher de la place de Paris. Et sans... comme ça désemparé, il lui dit « Voulez-vous me défendre gratuitement ?» Non seulement Maurice Garçon accepte, mais en plus Maurice Garçon lui fournit une brochette de témoins absolument extraordinaire. Au premier rang, il y a Jean Paulhan, le directeur de la NRF, donc de Gallimard. Il y aura André Breton qui enverra un texte. Il y a Georges Bataille qui vient à la barre. Et puis il y a Jean Cocteau qui se fend d'une lettre également en faveur de Jean-Jacques Pauvert. Ça fait quatre témoins qui sont quand même assez chics. Et le grand coup de génie de Maurice Garçon et de Jean-Jacques Pauvert, c'est la déposition de Jean Paulhan. Jean Paulhan dit, et reprend la rhétorique qu'on a entendue tout à l'heure dans le son sur Jean-Jacques Pauvert parlant de la dangerosité éventuelle de Sade. Le président du tribunal dit à Paulhan, est-ce que vous ne trouvez pas que publier Le Marquis de Sade, c'est dangereux, vous qui êtes à la tête de Gallimard? Et Jean Paulhan dit, oui, c'est très dangereux, monsieur le président, je connais une jeune fille qui est rentrée au couvent. Et Et là, la cour, enfin le tribunal est tellement saisi par le truc que tout est renversé. Et la conception selon laquelle on peut tout publier et que ça ne provoquera pas nécessairement une révolution, des pervers dans toutes les rues, etc., c'est possible de l'admettre.
C'est-à-dire que la littérature érotique peut permettre de descendre dans les abîmes de soi-même,
de la noirceur humaine, oui.
Et peut-être de devenir maître de soi. C'est le titre d'un livre de Maître Pierrat, je glisse ça en passant.
Non, j'apprécie l'allusion, Jean Lebrun. Il faut aussi comprendre que la justice française, en 1956, quand se déroule la première phase du procès, elle a dû faire son mea culpa. En 1949, elle a levé enfin l'interdiction sur les 6 poèmes interdits des Fleurs du Mal, qui l'étaient depuis 1857. Donc, elle a beaucoup de difficultés à appréhender la littérature et la censure. Elle se dit qu'elle a fait des grandes erreurs et des grandes conneries. 1857, c'est l'année de la condamnation de Madame Bovary, des Fleurs du Mal et de Gene Sue par le même procureur. Donc,
oui, mais il lui faut aussi appliquer l'ordonnance évidemment, de 49 étudiez longuement, qui crée la commission de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Et qui permettra ensuite d'interdire aux motifs qui sont susceptibles d'être lus par la jeunesse, des écrivains comme Pierre Guyotta, William Burroughs, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un argument qui est toujours le même, qui consiste à dire on doit interdire la littérature d'avant-garde et la plus osée parce que les enfants sont capables, ces petits pervers, d'aller les acheter dans les librairies les plus chères.
Maître Maurice Garçon perd quand même en 1956, puisque Pauvert est condamné à une amende et les volumes devraient être détruits, sauf qu'il y a appel. Et vous accordez beaucoup d'importance à ce jugement en appel de mars 58, qu'on n'a pas regardé de très près à l'époque parce que les soucis politiques étaient envahissants.
Oui, cet arrêt, il est extrêmement important parce que pour des magistrats, avoir l'audace de considérer que les 120 journées de Sodome fait partie de la liberté, en quelque sorte, de la liberté de création et de discussion, le terme c'est la liberté de discussion qu'emploient les magistrats, c'est inouï. Dans une époque qui par ailleurs aussi est celle quand même du début de l'état d'urgence de la guerre d'Algérie, qui est une époque dans laquelle, de l'autre côté, la justice française et la police française interdisent des livres et continuent de matraquer les éditions de minuit, Maspero, etc., et de mettre en prison, notamment, ceux qui dénoncent la torture en Algérie. Donc, il y a là une décision absolument extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société paradoxale où le Marquis de Sade est disponible en livre de poche ou dans la Pléiade chez Gallimard, sans aucune restriction. Et ce qui faisait dire à Jean-Jacques et à Maurice Garçon, mais ce qui faisait dire à Jean-Jacques Pauvert quand nous discutions ensemble qu'il n'y avait plus de censure logique.
Parce que si le Marquis de Sade est publiable, Histoire d'eau, qui va faire l'objet de procès, l'est aussi, qui se passe dans des châteaux souterrains où les femmes, torturées, mais sciemment soumises, adorent la soumission. Histoire d'eau, c'est le plus grand succès, pas tout à fait, de Jean-Jacques Pauvert.
C'est presque le plus grand succès. C'est quand même, on est en 1954 là aussi. Encore une fois, Jean-Jacques Pauvert est né en 1926, donc il est très jeune et il vend 500 000 exemplaires d'Histoire d'eau. Un livre qui a d'abord été refusé par Gallimard, qui leur a été par tous d'ailleurs, et qui aura du mal à décoller et qui se révélera, un succès absolument inouï.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En direct du Salon du Livre avec Emmanuel Pierrat, Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur en liberté. C'est le titre d'un volume que vous venez de publier, Maître, chez Calman Lévy. Pouvons-nous changer de registre et passer de l'érotique au politique ? Losfeld, autre grand éditeur érotique, détestait entendre Pauvert dire que tout était publiable. C'est un homme de réédition, Pauvert. Il a lancé, par exemple, une superbe collection au format tout à fait inédit qui s'appelle la collection Liberté, qui est animée par le brillant Jean-François Revel et qui doit rendre disponibles des textes de toute pendance politique. Il a même édité Le Pape, Pinoff, le syllabus, le texte contre les libertés. C'est Pauvert qui a édité ce texte du Pape. C'est formidable, Liberté.
Il est logique avec lui-même. Il crée cette collection, effectivement, qu'il confie à Revel en pensant qu'on doit tout publier, qu'il n'y a aucune restriction possible et que le seul pari qu'il faille faire, c'est l'intelligence du lecteur. Il est hors de question de faire une censure en amont. C'est le lecteur qui, grâce à son intelligence, arrivera à détecter s'il s'agit là d'un écrit horrible, fasciste, d'un sinistre connard ou d'un chef-d'œuvre littéraire. Et ainsi, il publiera alors des choses qui nous paraissent inouïes. Les théories sur la race de Gobineau. Il publiera Drummond. Il publiera Rebattet avec les mémoires d'un fasciste, mais aussi Bakounine de l'autre côté, mais aussi Tocqueville.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus complexe
mais
que ça.
Quand même, arrêtons-nous au cas de Drummond. Vous étiez tout jeune, c'était juste après 68, Maître Pierrat. Ça a fait quand même un certain schtroumpf, parce que voilà donc que le propagandiste de la libre parole de la France juive est édité dans la collection Liberté, mais alors là, le format a triplé. Rappelons qui est Drummond, voici un extrait d'un film d'Emmanuel Bourdieu. Nous sommes dans un salon littéraire, Drummond est avec ses amis, notamment Goncourt.
Ces immenses fortunes juives, les châteaux, les hôtels juifs, ne sont pas effectifs d'aucune production. Ils sont la prohibition d'une race dominante sur une race asservie.
Mon ami, il y a dans ce que vous venez de nous lire une hauteur philosophique qui me stupéfait. On éprouve une satisfaction intense à voir afficher avec cette bravoure en cette période de lâcheté littéraire ce que tout le monde pense, mais que vous seul avez le courage d'écrire.
Monsieur Drummond, de quelle manière entendez-vous résoudre la question sociale dont vous parlez beaucoup dans votre livre ?
Eh bien, je ferai rendre gorge au baron de la finance.
Que ferez-vous des fortunes ainsi confisquées ?
Mais j'indemniserai les pauvres usiniers que ruine la féodalité juive. Je redistribuerai aux sociétés ouvrières les capitaux qu'on leur refuse et surtout, j'empêcherai que le travail du propriétaire ne soit la proie des manieurs d'argent.
Alors, éditer Drummond, pourquoi pas ? Éditer Rebattet, pourquoi pas ? Le problème, si on prend le cas de ce volume, dont ni Pauvert dans ses mémoires, ni vous dans votre livre, Emmanuel Pierrat, c'est que l'édition, elle est confiée à un partisan de Drummond, à Emmanuel Baudeloméni. C'est pas une édition critique, c'est pas une édition savante, c'est quand même une édition propagandiste, fautive. L'édition des mémoires d'un fasciste de Rebattet est discutée aujourd'hui, maintenant qu'on a une édition meilleure de Rebattet.
Non, j'en suis bien d'accord. Et puis vous pouvez même ajouter, je le dis dans mon livre, que Jean-Jacques Pauvert était le premier éditeur de Forisson, qui était à l'origine un spécialiste de Lautréamont et de Rimbaud avant de délirer totalement, évidemment, sur les chambres à gaz. Donc c'est quelque chose de très complexe à appréhender. L'idée de Pauvert, encore une fois, c'est que le texte doit être livré quasiment tel quel. Et qu'il ne doit pas connaître de censure. Il se fera d'ailleurs violence en expurgeant une partie des mémoires d'un fasciste de Rebattet, hein, le fameux Les Décombres. Mais en même temps, il faut bien voir que Jean-Jacques Pauvert aussi, quand il est sollicité par les éditeurs d'extrême-gauche pour participer à la coédition de livres qui vont à coup sûr être interdits parce qu'ils font l'apologie du terrorisme communiste au Brésil notamment, il met immédiatement la main à la poche et il participe. Donc il n'est pas soupçonnable à la fin, une seule seconde, d'avoir eu des idées noires ou néfastes. Ce qu'il a, c'est un amour de la liberté immense et un grand sens, je l'admets, de la provocation, qui lui fait publier à peu près tout et n'importe quoi, à condition que c'est un intérêt, que ça permette de faire réfléchir, que ça soit ou que ça soit de la grande littérature ou que ce soit des documents historiques. Et il publiera ainsi Le Littré, aussi bien, qui était une chose immense, que toute l'œuvre poétique de Victor Hugo, qui est aussi une chose immense que personne ne veut embrasser financièrement tellement c'est lourd à porter, aussi bien, voilà, à côté que de Drummond.
Le Littré, allez, je voulais qu'on s'arrête sur ce dernier monument qu'il a rendu au public. Dès l'âge de 15 ans, il lisait Le Littré, et même avant, de A à D. Le voici qui témoigne de cette grande aventure. Combien d'entre nous ont Le Littré de Pauvert entre les mains ?
Je me suis aperçu, dans les années 50, comme ça, qu'il n'y avait plus de dictionnaire de Littré en circulation. Et alors, c'était assez intéressant parce que, à l'époque, je commençais à connaître des gens chez Hachette et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous ne rééditez pas le dictionnaire de Littré? Qui est épuisé. Oh, ils m'ont dit, vous savez, le dictionnaire de Littré, c'est une entreprise énorme. C'est gigantesque. Et puis, nous avons fait des enquêtes. Vous savez, l'édition, vous passez lancer là-dedans comme ça. Mon jeune ami. On a conclu qu'on en vendra entre 30 et 40 la première année. Donc, c'est pas rentable du tout. Alors, j'ai réfléchi sur le problème du dictionnaire de Littré. Et à l'époque, il se passait une chose, c'est que les livres français étaient plutôt vilains. C'est, ils étaient moches. C'était pas beau, les couvertures étaient tartes, les éditeurs français voulaient pas travailler, ils voulaient pas payer les maquettistes. Alors qu'on avait en France une équipe de maquettistes sensationnelle, il y avait le grand trio Faucheux, Massin, Darche. Alors j'ai posé le problème à Jacques Darche. Et il a planché là-dessus pendant un bon bout de temps et il a sorti une maquette extraordinaire. C'était le premier dictionnaire en France imprimé sur une seule colonne, format très étroit, comme ça que tout le monde a imité depuis d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était complètement nouveau. J'ai lancé ça en souscription et on en a vendu 20 000.
Ça, c'est très important, la forme qu'il donne au livre, d'Arche pour le Littré, Faucheux pour la collection Liberté qu'on évoquait, qui est extraordinaire, et du papier Kraft, c'est simplement un peu haut pour être rangé dans les étagères des livres de poche. Parce qu'il y a toujours un truc à quoi ils pensent pas, les conséquences financières des choix qu'on fait. Et dans le cas du Littré, il va même mettre sa maison en grande difficulté, qu'il a beaucoup de succès. Alors...
Jean-Jacques Pauvert, c'est un éditeur merveilleux, et c'est un bibliophile, un bibliomane, un bibliophage. Donc d'abord, doit passer avant tout la publication du livre, et sous un format ou un papier agréable, et derrière, effectivement, il y a des catastrophes financières. Pour le Littré, il l'arnaquera, hein, il faut le dire tel quel, il fera une petite escroquerie de 5000 exemplaires avec Gallimard, avec qui il est supposé être en coédition, ce qui lui vaudra évidemment un procès et des menaces de la part de la maison Gallimard, ce qui lui vaudra aussi des faillites retentissantes. Il a à la fois d'un côté gagné une fortune avec l'histoire d'eau, 500 000 exemplaires, le Goncourt pour l'épervier de Maheu, sans jamais s'être soucié de mettre de côté. Son seul amour, ça n'a pas été de dépenser dans des voitures de sport ou dans des restaurants luxueux, ça a été d'éditer et de rééditer des livres.
Oui, mais voilà. Il n'a pas transmis une maison.
Il n'a pas transmis une maison, mais il y a un catalogue de 3000 livres absolument extraordinaire. Et sans Pauvert, on n'aurait pas Bataille. Sans Pauvert, on n'aurait pas les derniers livres de Breton. Sans Pauvert, on n'aurait pas Georges Darien. On n'aurait pas L'Astragale. On n'aurait pas un nombre de livres absolument merveilleux. Et on n'aurait personne qui aurait eu l'audace de publier le Marquis de Sade, encore une fois.
Mais Pauvert, c'est une filiale de Fayard. On n'est même pas sûr que Fayard ait le courage aujourd'hui de publier un grand livre sur Pauvert.
Non, parce que... Pauvert avait comme idée, et moi pour avoir été son avocat, je l'ai suivi dans ça, qu'il fallait déposer des marques de maisons d'édition qui s'appelaient Pauvert Édition, édition Jean-Jacques Pauvert, Jean-Jacques Pauvert éditeur, et puis que s'il y avait une catastrophe financière, bon, on abandonnait ce navire et puis on partait sur un autre immédiatement en faire de nouveaux livres. Voilà, c'est un vrai flibustier de l'édition et un grand.
C'était une formule qu'on utilisait beaucoup dans les éditions clandestines au 17e, 18e, au dépens de la compagnie, au dépens des autres. Biographie de Pauvert, Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur en liberté, je signale qu'ils sont incluses des ébauches de biographies que vous nous ferez peut-être un peu un jour. Dominique Horry, l'auteur d'Histoire d'eau, Régine Deforge. J'attends aussi une biographie de Françoise Giroud. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'affection pour Françoise Giroud.
J'en ferai une peut-être aussi de Maurice Garçon.
Mais qui est moins prude que Françoise Giroud à vous lire. Emmanuel Pierrat, merci. Alors, d'autres émissions en direct de France Inter au Salon du Livre. Fabrice, Charline, Nicolas, Laurent, donc jusqu'à tard ce soir. Rémi Gouriou était aux manettes avec Sébastien Huel et Patrice Klein. La réalisation, c'était Jacques Sigal. La préparation, Elinka Negulesco. C'est demain, Mathieu Vidard, que vous nous rejoignez au Salon du Livre.
Absolument, la tête au carré demain avec Hubert Reeves, entre autres, qui sera notre invité. Et puis en attendant, dans un instant, on parle de la phagothérapie, une thérapeutique basée sur les virus mangeurs de bactéries.
Merci à vous et dans un instant, donc la tête au carré.